Voilà, maintenant, nous allons passer à un tout autre genre de sujet, dans un style, vous allez le voir, tout à fait différent. Il représente peut-être ici ce que certains appellent aujourd'hui le mouvement punk, une certaine forme de contestation musicale et puis aussi de contestation sur le plan du spectacle.
Ben oui, il l'a dit il y a 40 ans, c'est toujours vrai, parce qu'on va célébrer ce soir un inventeur, un visionnaire, le seul, l'unique, l'homme qui a élevé la sauvagerie dans le rock'n'roll à la hauteur d'un art. Gimme danger, little stranger, offre-moi du danger, petit inconnu, un des classiques de Iggy Pop, érotique et insinuant, avec son groupe Les Stooges en 1973. Ce titre se trouve à l'origine dans un album qui s'appelle Raw Power, puissance crue. Et Gimme danger, c'est aussi le titre du documentaire tout récent que le cinéaste Jim Jarmusch a consacré à l'histoire de son groupe préféré de toute l'histoire du rock, les Stooges, le groupe qui a révélé Iggy Pop il y a près de 50 ans déjà. Alors ce film est sorti au cinéma au début du mois et je vous encourage vraiment à aller le voir, que vous soyez d'ailleurs un inconditionnel d'Iggy Pop ou non, ça n'a aucune importance, c'est un film qui vous inspirera parce qu'il illustre une vérité simple, c'est que quand on croit fermement comme lui en quelque chose, eh bien on arrive à absolument tout surmonter. surmonter les ennemis, les obstacles, les échecs, mais aussi ses propres limites, ses propres démons, et Dieu sait qu'il en a eu. Alors, c'est pas seulement une leçon de vie, enfin dans le cas d'Iggy Pop, il faudrait mieux dire une leçon de survie, mais ça nous fait comprendre qu'un artiste triomphe, non pas parce qu'il recherche l'argent, la reconnaissance sociale et la gloire, mais pour une raison essentielle, parce qu'il a un besoin existentiel d'imposer sa vision. C'est au fond, pour lui, la seule façon d'exister dans une société qui, justement, considère les gens de son espèce comme inexistants. Et Iggy Pop, en somme, c'est la revanche du paria, de ceux qu'on piétine et qui relève la tête. D'ailleurs, il y a un moment très révélateur dans le film. Alors, Iggy Pop, que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, il a été élevé dans une grande caravane parquée aux alentours d'une ville moyenne du Michigan nommée Ann Arbor. C'est à 3 quarts d'heure en voiture à l'ouest de Détroit. Et encore, au début des années 60, c'était la capitale mondiale de l'automobile. Alors, ses parents étaient des intellectuels. Le père enseignait dans un lycée, la mère était employée dans une société d'aérospatiale. Mais enfin, la famille, dans cette famille, ils vivaient comme des marginaux. Alors, les bons résultats du petit Jim, hein, c'est le nom de baptême de Iggy, avaient conduit ses parents à l'inscrire dans un bon lycée qui était fréquenté par des jeunes gens de famille plus aisés. Et ces gamins, 13 sur 2, se moquaient souvent de Jim Osterberg, hein, ce garçon de petite taille, avec ses grosses lunettes, mal habillé, qui était pas cool du tout. Un jour, Jim en a invité quelques-uns chez lui, et ils se sont moqués, évidemment, de la caravane de ses parents. Il y en a un qui lui a dit « Votre bagnole est plus grosse que votre maison », et un autre a ricané quand il a vu la taille de la salle de bain. Et puis ils se sont excités, et soudain il y en a un qui a suggéré de secouer la caravane de toute leur force pour voir si elle resterait debout. Ça a été une expérience horrible pour le jeune Jim, et plus de 50 ans dans le film de Jarmusch, on voit Iggy assis chez lui dans un fauteuil tout décati, et son regard lance encore des dagues quand il raconte cette histoire. Et soudain il dresse les majeures de ses deux mains et il fait son sourire diabolique. Depuis ce jour-là, je veux me les faire. Et c'est moi qui vais les enterrer. Alors, il me paraît indispensable de faire commencer l'histoire là où elle a vraiment commencé, à Détroit, en musique, avec le groupe qu'on peut considérer comme le grand frère des Stooges. MC5, pour Motor City 5. Motor City, c'est le surnom de Détroit. MC5 s'est créé dans cette ville en pleine période hippie, mais l'ambiance là-bas n'avait strictement rien à voir avec la côte ouest. Il y avait en 68 des émeutes raciales. Elles ont fait des dizaines de morts, d'ailleurs. Et MC5, qui jouait un rhythm and blues extrêmement musclé, se rangeait du côté de la communauté noire, et le groupe allait d'ailleurs plus loin, ils prônaient la lutte armée. Ils avaient d'ailleurs entraîné pas mal de marginaux dans une maison de Ann Arbor où tout ce beau monde vivait en communauté. Et le guitariste de MC5, Wayne Kramer, résumera une trentaine d'années plus tard l'état d'esprit de cette période délirante. Notre programme politique, c'était la drogue, le rock'n'roll et baiser dans les rues. MC5 sur la scène du Grand Ballroom de Détroit, fin 68, kick out the jams, en gros ça suffit, les emmerde. Kick out the jail! Yeah! Kick out the jail! I have to kick them out! Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What a feeling! It's the sound that abounds and rebounds and rebounds off the ceiling. When you get the feeling, you gotta talk about what that mic in my head. And let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Yeah. C'était Iggy Pop avec les Stooges en 1970, un extrait de Funhouse, hein, le deuxième album du groupe. Loose avec deux O, hein, pour dire je suis déchaîné, incontrôlable. Les paroles de cette chanson, d'ailleurs comme la plupart de celles des Stooges, tiennent sur le recto d'un post-it. Hein. Ils ont toujours un double sens salace, comme dans la tradition du blues. En gros, Iggy dit j'ai un disque de jolie musique pour toi et je vais te le coller bien profond parce que je suis déchaîné. Bon, sans commentaire. Alors à ce sujet, on apprend quelque chose d'intéressant dans le film de Jim Jarmusch. s'accroche, Gimme Danger, hein, sur la façon dont Iggy a écrit les premières chansons de son groupe. Alors c'est simple, hein, le petit Jim, Iggy avant Iggy donc, raconte qu'il aimait regarder les programmes pour enfants à la télévision. Bon, jusque-là c'est normal. Il y avait un comique, une sorte de clown avec un nœud papillon géant, qui s'appelait Soupy Sales, et il demandait aux enfants de lui écrire des lettres, hein, pour qu'ils les lisent éventuellement à l'antenne. Alors il pouvait raconter ce qu'il voulait, mais à une seule condition, que ça ne dépasse pas les 50 mots. Et Iggy explique qu'il a retenu cette leçon parce que de toute façon, il se sentait absolument incapable d'être aussi verbeux que Bob Dylan. En fait, il a fait de cette limite un atout et la concision est devenue une partie intégrante de la force si singulière des Stooges. Alors les Stooges, c'est un nom qui a été choisi d'ailleurs par un des membres du groupe d'après celui de trois comiques qui faisaient les andouilles à la télévision un peu, si vous voulez, comme les Charlots. Voilà. Les Stooges, d'ailleurs, ça voulait dire les larbins, en fait. Alors, ce serait un contresens total d'assimiler les Stooges à cette flopée de groupes de lycéens du Midwest américain, ou d'ailleurs, qui massacraient Gloria ou Louie Louie dans le garage de leurs parents. Hein. Ce qu'on a eu coutume d'appeler le garage rock, déjà appelé punk rock à l'époque, le rock taré, hein, au milieu des années 60. Le film de Jarmusch montre qu'en fait, il y a eu pas mal d'éléments tout à fait inhabituels dans le cocktail détonnant qu'était la musique des Stooges. À l'origine, Iggy jouait de la batterie. Hein, il s'exerçait d'ailleurs dans la caravane de ses parents, qui avaient d'ailleurs fini par lui céder leur chambre à coucher pour se tenir le plus loin possible du bruit. Il avait donc fondé un premier groupe en tant que batteur, les Iguanas, hein, d'où son surnom de Iggy, avant de rejoindre un autre un peu plus professionnel. Mais deux expériences ont été pour lui déterminantes et radicales. La première, c'est la fréquentation de l'université du Michigan à Ann Arbor, une université où tous les ans était organisé un festival de musique contemporaine. Et c'est là que Iggy a découvert des musiques et des compositeurs qui l'ont ouvert à l'expérimentation sonore. En particulier, Harry Parch, un compositeur américain qui, au XXe siècle, a été, si vous voulez, une sorte de facteur cheval de la musique, qui a été capable d'inventer des instruments à partir d'objets ramassés dans des décharges. Il avait aussi inventé une gamme à 43 tons. Enfin, c'était un type assez spécial. D'ailleurs, il a été aussi une grande inspiration de Tom Waits dans les années 80. Mais la seconde expérience, encore plus déterminante pour Iggy, ça a été son installation dans le ghetto noir de Chicago. Il prétend même qu'il était le seul blanc à y habiter. Il voulait s'immerger au cœur du blues et ça a été pour lui une révélation. Une révélation qu'on pouvait vivre la musique et pas seulement en faire. Et une différence qui est évidemment essentielle. Alors je cite une interview que Iggy a donnée aux Zin Rock en 1990, ça fait un bail. « Selon le stéréotype, les Noirs jouent du blues parce que leur race souffre. » Mais en fait, ils jouaient du blues parce qu'ils étaient défoncés à longueur de journée. Du genre à boire et à baiser tout le temps avec un couteau dans la poche. Fin de citation. Alors selon la légende, c'est lui qui le raconte, il le raconte encore dans le film de Jarmusch. Iggy s'est assis au bord du fleuve qui traverse Chicago, en contemplant un paysage d'usine, il a allumé son premier pétard et il s'est dit, je cite, « Je vais faire mon propre blues, comme ces mecs, en m'inspirant de mes propres expériences. Je vais faire pour ma génération ce que les Noirs ont fait pour eux-mêmes. » Fin de citation. Et le fameux « I wanna be your dog », qu'est-ce que c'était? Bah, une variante très sexuelle d'un célèbre blues de Big Joe Williams, « Baby, please don't go ».
Very Good Trip sur France Inter.
Tell you what, let's go with that last one for tonight.
Ben voilà, ils vont aller se coucher. I Got a Ride, c'était Iggy Pop avec les Stooges. L'enregistrement remonte à l'été 1972. Il a été fait au studio Olympic à Londres. C'est la dernière incarnation des Stooges en studio avant leur résurrection au début des années 2000. C'est vrai, alors je vous ai parlé de Iggy Pop, mais les Stooges se résument pas à lui, hein, loin s'en faut. En 67, à son retour de Chicago, Iggy a tout juste 20 ans. Il a repris contact avec deux connaissances, hein, les frères Ron et Scotty Ashton. Il s'était lié à eux au temps où, parallèlement à ses études, il travaillait dans un magasin de disques de Ann Arbor, Discount Records. Et les frères Ashton, on le voit dans le film de Jarmusch, qui a eu la chance de pouvoir les interviewer à temps, l'un est mort en 2009, l'autre en 2014, étaient non des cas sociaux, mais plutôt des asociaux. Élevés par leur mère seule, hein, le père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était mort assez tôt, ils avaient en fait grandi totalement livrés à eux-mêmes. Ils s'étaient fait délibérément exclure de leur lycée pour se livrer à toutes sortes d'actes de délinquance, absorption de drogues diverses et larcin pour les financer. Ils jouaient dans un groupe local que Iggy connaissait et l'aîné, donc Ron Ashton, un passionné des Beatles et des Stones, avait vendu sa moto pour faire le voyage en Angleterre, à Liverpool précisément, avec celui qui allait devenir le bassiste du groupe, Dave Alexander, hélas mort tragiquement, jeune déçu d'une overdose à 26 ans en 75. En Angleterre, ils avaient assisté à un concert du groupe The Who, où ils avaient vu Pete Townshend fracasser sa guitare dans un acte théâtral qui répétait fréquemment, sorte de performance d'art contemporain réalisée dans le cadre d'un concert de rock. Ron Ashton est en grande partie à l'origine du son violent et saturé des Stooges. À égalité avec Iggy Pop, c'est lui qui a entraîné les concerts du groupe vers une sorte de happening collectif où les spectateurs se contentaient pas d'être là et de regarder quelque chose, mais y participaient à une cérémonie sauvage, susceptible de tourner au chaos, à l'émeute ou à l'orgie, ou même bah, carrément aux trois à la fois. Alors voilà, les Stooges n'ont eu le temps d'enregistrer en fait que deux albums. Le premier sans titre en 69 et le second en 70, Funhouse, le plus puissant. À ce moment-là, les quatre vivaient ensemble en communauté. Et je cite Iggy racontant cette histoire à Jim Jarmusch, nous étions de vrais communistes au sens premier puisque nous partagions tout entre frères. Mais en 70, ce groupe-là n'existe plus. La Funhouse, la maison où ils habitaient en communauté, a été détruite. Leur matériel aussi a été détruit puisque le batteur Scott Ashton, au volant de leur camionnette, s'est encastré sous un pont et s'est fait éjecter de la cabine. Donc voilà, le camion est broyé. La compagnie disque Elektra ne veut plus entendre parler d'eux. Et pourtant, coup de théâtre, Iggy va renaître de ses cendres. C'est pas la dernière fois. Un David Bowie, encore très peu connu, le rencontre à New York. Il lui déclare son admiration et il le fait venir à Londres. Le manager de Bowie, Tony DeFreeze, prend alors Iggy sous son aile. Il essaye de convaincre le chanteur de travailler avec des musiciens anglais. Iggy n'en veut pas. Il arrive à faire revenir les frères Ashton et il travaille avec un très jeune et excellent guitariste, doublé d'un très bon compositeur, James Williamson, avec lequel donc il compose les chansons qui constitueront un album de Iggy accompagné par les Stooges et non un album des Stooges à part entière. Cet album s'appelle Raw Power. Il était enregistré donc dans la foulée de ces séances de 72 que vous avez entendues. Et cet album commence par ce titre Search and Destroy, inspiré à Iggy par une couverture du magazine Time consacrée à la guerre du Vietnam.
Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Honey, gotta strike me blind. Searching to destroy. And honey, I
Penetration, un des titres les plus singuliers à figurer dans l'album Raw Power, paru en 73, attribué à Iggy and the Stooges. Alors dans ce riff répétitif et obsédant, où vous avez remarqué cette façon de chanter très proche du râle, on est proche, enfin aussi d'une sorte de psalmodie atonale, hein, qui sera celle du Bowie de la période berlinoise, comme dans certains groupes de l'après-punk. En tout cas, il y a dans ce riff lancinant quelque chose qui semble annoncer un peu Joy Division aussi. Alors d'ailleurs, le groupe de Manchester se fera les dents sur le répertoire des Stooges, hein, comme beaucoup de groupes punk en devenir durant cette période. Alors à cette époque, hein, Iggy faisait figure de revenant, hein, même s'il avait que 26 ans, puisque comme le Velvet Underground, les Stooges avaient été une étoile filante, hein, ils avaient enregistré, je vous l'ai dit, deux albums parus en 69 et 70, hein, je vous le rappelle, et puis ils avaient disparu. Ces disques s'étaient très peu vendus, et puis en plus, très peu de critiques les avaient remarqués. Donc Bowie et son manager étaient venus relancer la carrière de Iggy, comme il l'avait fait avec succès pour Lou Reed. Et je vous disais donc que très têtu et très déterminé, Iggy avait refusé de travailler avec des musiciens anglais pour faire venir ses compagnons des Stooges en studio à Londres. Eh bien, le résultat, les séances des Olympic Studios, a carrément horrifié le manager de Bowie, qui n'a pas voulu sortir développer sa maquette. En fait, ils sont arrivés à un compromis, ils ont fait d'autres chansons et l'album est finalement sorti quelques mois plus tard. Alors, parmi ces enregistrements qui sont restés légendaires, parce que très vite, ils ont commencé à apparaître dans des albums parus dans les années 70, il y a cette ballade psychédélique et vénéneuse qui est un des sommets de Iggy Pop avec les Stooges, I'm Sick of You. Thank you. I'm Sick of You, un titre de Iggy Pop enregistré en 72 à Londres avec les Stooges. On a pu entendre d'ailleurs la qualité du jeu de guitare de James Williamson, d'ailleurs le seul Stooge aujourd'hui survivant avec Iggy Pop. Alors je vous disais, les Stooges c'était pas que Iggy Pop. Alors quand on parle du groupe aujourd'hui, on retient au fond un seul aspect, c'est l'aspect précurseur du punk rock, hein, la transformation de la sauvagerie primitive, d'une certaine forme de bassesse en un des beaux-arts. En effet, les danses d'Iggy Pop, d'ailleurs dans le film de Jarmusch, il explique que cette façon tellement étrange de tordre son corps et de sauter sur place sauvagement lui avait été inspirée par l'attitude des babouins quand ils se préparent au combat authentique. Alors musicalement, ils se sont situés, les Stooges, à un point de jonction absolument unique. Le rhythm and blues noir américain, bien entendu. Les expériences sonores extrêmes de la musique contemporaine, qui étaient d'ailleurs accueillies volontiers par les musiciens de rock psychédélique. Alors pour vous donner un exemple, les Stooges qui faisaient rien comme les autres, en 68 sur scène, c'était amusé, enfin si on peut dire, à coller un micro près de la surface d'un mixeur rempli d'eau, ce qui faisait un bourdon assourdissant. Iggy sur scène jouait aussi de l'aspirateur amplifié. Et puis, faut pas oublier évidemment le free jazz, puisque les Stooges avaient été très marqués par Sun Ra et Ornette Coleman. Et voilà, alors on peut dire que l'essentiel de tout ça, c'est que c'était au service d'un certain théâtre de la cruauté où Iggy jouait son propre rôle à ses risques et périls, partant dans une transe qui, on le sait, pouvait le conduire à l'automutilation. Alors, après la fin abrupte des Stooges en 74, Iggy a suivi un parcours très riche, hein, on l'abordera sur Inter mercredi et jeudi prochain. Il a abordé tous les styles, du jazz à l'opéra, en passant par le répertoire traditionnel français. Mais enfin, jusqu'au bout, il y a une constante. Il est resté fidèle à ses vieux copains, à ses complices de sa jeunesse, aux frères Ron et Scott Ashton. En 2003, il les a appelés, et on apprend ça dans le film de Jarmusch, ils avaient toujours le même numéro de téléphone qu'en 1966, et oui, à Ann Arbor. C'est sans doute Ron qui a décroché. Et il les a fait revenir auprès de lui dans un album qui s'appelle Skull Ring, où il avait aussi fait appel à la nouvelle génération punk pop en accueillant des groupes comme Green Day et Sum 41. Alors, les Stooges réunis sont repartis en tournée avec un nouveau bassiste. Ils ont publié deux albums, The Weirdness en 2007, et puis un album qui s'appelle Ready to Die en 2013, sur la pochette duquel on voit Iggy Pop torse nu, c'est banal. Ce qu'il est moins, c'est qu'il a une ceinture d'explosifs autour de la taille. Alors, hélas, Ron Ashton a cassé sa pipe début 2009, ce qui a entraîné le retour de James Williamson à la guitare, qui était devenu entre-temps développeur de logiciels chez Sony, avec un grand succès. Voilà, alors la chanson la plus marquante de l'album Ready to Die, Sex and Money, inutile de traduire. Thoughts of my dreams, sex and money. The darkness is on my mind when reason is going blind. The truth is a motherfucker. I'm looking for a reason to live. But two things to give, sex and money. They say seek, seek, seek and you'll find sex and money. Reality ain't written down. The toughest bull owns the ground. The others can't come around. Sex and money, sex and money. 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 Sex and Money, I Want It, un extrait de ce qui restera le tout dernier album des Stooges, paru en 2013, Ready to Die. Bah oui, l'album ultime, puisque 5 ans après son frère, le batteur Scott Ashton est mort début 2014. Et puis, on a appris, il y a un peu plus d'un an, la mort aussi du saxophoniste Steve McKay. Voilà, il n'y a plus que 2 survivants, c'est James Williamson et Iggy Pop. Alors, dans Ready to Die, Iggy a rendu hommage à Ron Ashton et à tous les disparus qui ont jonché sa vie. Iggy Pop, The Departed, une balade lugubre entre folk et blues. Où en est la vie que nous avons entamée ? La porte d'hier est ouverte pour ceux qui nous ont quittés. Une chanson méconnue et une de ses plus belles.